On vous l'a dit en début d'émission, le procès d'Éric Salvaille se poursuit aujourd'hui au Palais de justice de Montréal et notre collègue Philippe Bonneville s'y trouve. On va le joindre à l'instant. Salut Philippe!
Salut Éric!
Comment ça se passe aujourd'hui?
Un peu comme hier, hein, parce qu'on est dans la suite du contre-interrogatoire de la victime alléguée d'Éric Salvaille. Et tout comme hier, l'avocat d'Éric Salvaille ne met pas de gants blancs, disons, pour poser ses questions, demeure très incisif, sa voix est forte, un ton parfois à la limite de l'agressivité lors de certaines questions. Donc, c'est pas facile, hein. C'est là qu'on peut vraiment se rendre compte à quel point, pour une victime d'agression sexuelle, venir raconter, venir témoigner lors d'un procès, c'est vraiment pas évident. Écoute, là, c'est depuis hier, en fait, avant-midi, que cet homme-là, âgé de 47 ans maintenant, est à la barre des témoins. Et là, présentement, on décortique chaque seconde de l'agression sexuelle. Qui a dit quoi? Quels gestes ont été commis? De quelle façon? Dans quel contexte? Qu'est-ce que lui pensait de tel geste ou de telle chose ou de telle attitude? C'est très, très difficile. On parle de centaines de questions jusqu'à maintenant. Et l'objectif, pour l'instant, on le voit là, c'est un long contre-interrogatoire et ce qu'il tente de faire, l'avocat d'Éric Salvaille, c'est de souligner peut-être certaines imprécisions, certaines omissions dans le témoignage de Donald Duguay. Il a réussi ce matin à démontrer que Donald Duguay n'a pas toujours dit exactement la même chose sur des détails. Et là, je souligne le mot « détail » parce que ce sont des détails. Lors de ses déclarations aux policiers, que ça aurait peut-être un peu changé lors de l'enquête préliminaire et que là, ça change encore lors du procès. Exemple, le nombre d'urinoirs, la distance entre le lavabo et la porte de la salle de bain de Radio-Canada où se serait produite l'agression sexuelle. Donc, on voit là, ce sont des détails. Et oui, c'est vrai que le témoin, la victime alléguée, eh bien, n'a pas toujours dit exactement les mêmes réponses à ces questions-là.
Parce que la partie agression sexuelle, du harcèlement, c'est une chose, là.
Mm-hmm.
Puis ça, je pense que tout le monde qui a connu Éric Salvaille, tu sais, qui a dit au gars qu'il avait un beau cul ou qu'il y avait des affaires là-dedans que c'était OK, là. Mais la partie agression sexuelle, ça s'est passé une fois, ça a duré 3 à 4 minutes dans une toilette, il y a 27 ans. Et là, il faut se rappeler de tous les petits détails pendant ces 3 à 4 minutes-là. Là.
Non, c'est pas évident.
Ça va être le témoignage de un, peut-être contre le témoignage de l'autre, alors qu'il n'y a pas de témoin, c'est pas une mince tâche. Là.
Non, exactement. Et d'ailleurs, Donald Duguay, le témoin, la victime alléguée s'est fait demander à plusieurs reprises ce matin, mais pourquoi vous n'avez pas réussi à sortir de cette salle de bain-là au début de l'agression? Comment ça se fait que vous n'avez pas été capable quand vous dites que vous vous sentiez en danger, que vous étiez en état de panique? Comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à sortir de la salle de bain alors que la porte n'était pas barrée, que c'est une salle de bain là d'un immeuble, donc c'est pas très, très grand. Vous aviez quelques pieds à franchir et vous auriez pu sortir. Et en plus de ça, l'avocat d'Éric Salvaille a souligné que Salvaille, à ce moment-là, selon le récit de la victime, avait les pantalons à mi-cuisse, Salvaille tenait sa victime
pas
le
courir,
avec
eux.
Mais c'est ça, la liberté d'action était vraiment plus limitée pour Éric Salvaille à ce moment-là. Salvaille le tenait, semble-t-il, avec une seule main, parce que dans son autre main, il tenait son sexe. Donc, une seule main, les pantalons aux genoux. Comment ça se fait que vous n'avez pas été capable de sortir? Lui, sa réponse à Donald Duguay, c'est j'aurais bien voulu quitter, mais il était plus fort que moi, il pesait 170-180 livres, j'en pesais même pas 125 à ce moment-là, et il me bloquait vraiment le chemin avec une seule main. Oui, je ne pouvais pas m'enfuir, j'ai vraiment tout essayé.
Mais il a réussi à s'enfuir finalement, il a réussi à s'enfuir quand même.
Oui, ça a pris 4 minutes environ, 4 à 5 minutes, il a avant ça tenté de donner des coups de genoux dans ses parties génitales, il a craché au visage, dit de l'avoir graffiné, dit avoir tenté d'empoigner son sexe pour lui faire mal, mais ça a fonctionné, mais au bout de 4 minutes à peu près. Là,
ça va être quoi la prochaine étape?
Mais là, on se demande combien de temps ça va durer, le contre-interrogatoire. Ça a commencé un peu avant midi hier. Là, c'est pas terminé.
Ça fait plus de 24 heures, là.
Exactement. C'est sûr qu'en temps de cours, c'est pas aussi long que ça, mais ça fait une journée complète là qu'il est questionné, bombardé de questions. C'est certain qu'en contre-interrogatoire, les avocats ont une très grande liberté d'action. Comme là, on peut se dire, les auditeurs à Québec doivent se dire, mais comment ça se fait qu'ils parlent d'urinoir, puis de distance entre la porte puis le lavabo et tout ça, tu sais. C'est sûr que nous, dans la salle, on sait peut-être pas nécessairement où il s'en va avec ça, l'avocat. Mais lui, il a un plan et c'est pour ça que le juge le laisse aller, même si c'est des questions sur des petits détails qui peuvent sembler anodins. L'avocat continue de poser des questions, tente de déstabiliser, si on veut, le témoin, tente de miner sa crédibilité et on verra combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va prendre fin cet après-midi ou si on va poursuivre ça demain matin? Tout est possible pour l'instant.
Parce que honnêtement, les deux, autant la présumée victime qu'Éric Salvaille, leurs avocats doivent avoir même le plan de la toilette. Là, tout le monde doit savoir comment est-ce que ça... Tu sais, je veux dire, c'était une toilette publique à Radio-Canada. Tout le monde sait c'était quoi la toilette. Là. Donc, ils ont déjà les plans. Fait que pourquoi ils passent autant de temps sur les détails de comment est aménagée la toilette si tout le monde, de toute façon, sait comment qu'elle est, puis depuis 27 ans, ils ont déjà les plans?
C'est qu'en fait, c'est que lorsqu'il a fait sa déclaration au policier, sa plainte, il a justement dessiné un plan, il a fait des déclarations vidéo, déclarations écrites, où il donnait certains détails, notamment qu'il y avait seulement un urinoir et qu'à ce moment-là, Éric Salvaille, quand il est rentré dans la salle de bain, est venu s'installer, s'est baissé le pantalon à côté de lui, a fait semblant d'uriner dans un urinoir qui n'existait pas, mais il voulait, dans le fond, lui montrer son sexe. Donc, ça fait c'est partie de la trame factuelle de tout ça. Par la suite, il est retourné sur les lieux lors d'un enregistrement, tout le monde en parle, et la victime s'est rendue compte que finalement, il y avait deux urinoirs et que sa version des faits n'était peut-être pas exactement ça. Donc, il a un peu modifié sa version des faits liée à l'urinoir. Et donc, c'est pour ça que l'avocat de la défense tente de démontrer au juge, au tribunal, que, bon, la version n'est pas tout à fait la même. Là, s'il change la version pour ça, ben peut-être qu'il y a d'autres choses là, qu'il a modifiées ou que qui ne sont peut-être pas aussi précises. Son souvenir n'est peut-être pas aussi bon qu'il le pense des événements. Donc, souvent un peu, là, c'est comme ça, là, la stratégie, c'est de tenter de démontrer, en diminuant la crédibilité du témoin, qu'il a peut-être fait certaines erreurs, que le temps a passé et que sa mémoire lui fait peut-être défaut, qu'il sera peut-être... que même s'il est très affirmatif sur plein de détails et sur comment Salvaille a agi contre lui, mais tel que c'est pas aussi précis que ça et que c'est peut-être pas tout à fait ça qui s'est passé non plus. Donc, c'est ça le travail d'un avocat de la défense, en fait.
Là, Salvaille est là, il assiste à tout ça. Est-ce qu'il intervient-tu? Il parle-tu à son avocat? Comment il réagit?
Non, il est assis quand même, quoi, à 2,5 mètres environ de son avocat. Okay. Première rangée, il est assis là avec son calepin, son bloc-notes, prend des notes, justement, doit, lors des pauses, donner certains détails à son avocat pour l'aider dans la stratégie. Hier, il semblait assez détendu, c'est le cas encore aujourd'hui. Il ne semble pas trop nerveux, Éric Salvaille, semble assez confiant de la manière dont ça se passe présentement. Hier, quand sa présumée victime donnait des détails sur l'agression sexuelle, Éric Salvaille souriait un peu. Sourire en voulant dire, là, t'exagères. Aujourd'hui, il ne dit rien, il ne fait rien. Dans le corridor, parfois, jase avec ses avocats, semble vraiment très détendu, mais c'est un peu ça qui se passe pour lui. Et là, c'est de savoir, est-ce que lui va témoigner? Ça, on ne le sait toujours pas. Même aujourd'hui, on ne le sait pas. Puis il n'est pas obligé de nous le dire. Pour l'instant, là, sa stratégie, la stratégie du clan Salvaille, elle demeure secrète et ils ont tout à fait le droit de garder le secret là-dessus tant et aussi longtemps que ce ne sera pas à leur tour de parler. Là.
Fait que là, c'est cela. On va attendre. Mais de toute façon, ils ne parleront pas tout de suite s'ils ont à parler parce que aussitôt que le témoignage de sa présumée victime va être terminé, il va y avoir trois autres témoins avant qu'on sache si Salvaille intervient ou pas.
Ouais, quatre autres témoins pour être précis. Ces témoins-là, moi, je les ai entendus lors de l'enquête préliminaire, parce qu'il y a eu enquête préliminaire il y a quelques mois. Malheureusement, je peux pas dire qu'est-ce qu'ils vont venir raconter parce que c'est frappé d'un interdit de publication. Moi, j'ai entendu les témoignages, je sais ce qu'ils vont venir dire, mais pour l'instant, on n'a pas le droit. C'est pour ça que tu entends ça de nulle part. Là. C'est qu'on n'a pas le droit même pas de révéler leur identité ni leur lien avec la présumée victime, mais ça va venir au cours des prochains jours.
Mais peut-être quand ils vont se présenter à barre des témoins, on va être capable de donner leur nom, là.
Même pas, parce que ça on parle d'un dossier d'agression sexuelle. L'exception, c'est Donald Duguay, qui lui a décidé
de
lever l'anonymat. Il a décidé, il a demandé à ses avocats de lever son anonymat. Normalement, on n'aurait jamais pu le filmer, le prendre en photo ou dévoiler son identité, parce que c'est comme ça que ça se passe. On veut protéger l'identité, évidemment, des victimes d'agression sexuelle, de crimes à caractère sexuel.
Il a fait des entrevues, de toute façon. Est-ce que les entrevues qu'il a faites, l'avocat, d'un bord ou de l'autre, pourrait utiliser ça? Est-ce que c'est du matériel qui pourrait être utilisé contre lui? Parce que moi, j'ai été très surpris. Oui. C'est rare qu'on voit des victimes parler aux médias avant d'aller parler au juge. Puis je me suis demandé si ça pouvait pas nuire à son témoignage.
Et ça, là, c'est le cauchemar de tout procureur de la couronne quand une victime se met à aller offrir des entrevues dans les médias avant la tenue du procès. Après, pas de problème. Avant, plus problématique, parce que là, tout ce qui se dit lors d'une entrevue, c'est public, c'est facilement retraçable, et ça donne des munitions à la défense. Dans ce cas-ci, pour l'instant, il n'en est pas été question. On n'a jamais vu l'enregistrement, tout le monde en parle, être diffusé ici dans la salle d'audience. Mais ça donne une munition supplémentaire au clan Salvaille. S'il y a des imprécisions ou des contradictions entre ce qu'il a dit, tout le monde en parle, et ce qu'il a raconté aux policiers dès le départ, version des faits, eh bien, soyez assurés que l'avocat de Salvaille va utiliser ça pour dire, regardez, là, vous avez dit ça aux policiers, mais à la télévision, vous dites ça. D'accord. Comment on peut vous croire maintenant? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Pourquoi on vous dites pas la même chose? Donc, si on peut pas vous croire là-dessus, sur quoi on peut vous croire? Et voyez un peu le portrait que ça peut donner. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été utilisé, mais c'est pas quelque chose que... Si j'étais procureur à la Couronne ou avocat en général, disons que je dirais à mes clients, là, non, on ne fait pas ça. C'est juste donner des munitions à l'autre clan pour absolument rien.
Là. Fait que là, dès que son témoignage va être fini, ça veut dire que les prochains témoins, Philippe, on ne pourra pas en parler en ondes.
On va pouvoir en parler, mais je ne pourrais pas te les nommer. Je ne pourrais pas te dire, disons, là j'extrapole, là, disons que la sœur de Donald Duguay vient témoigner. Je dis ça comme ça, là, ça n'arrivera pas. Là. Si sa sœur vient témoigner et qu'elle s'appelle Claudette Tremblay, eh bien, je ne peux pas dire que c'est Claudette Tremblay, sœur de Donald Duguay, qui témoigne présentement, parce que ça permettrait de l'identifier, elle, qui témoigne dans une cause d'agression sexuelle.
Mais tu peux dire qu'il avait parlé à quelqu'un qui corrobore sa version, puis qui dit qu'à l'époque, il est allé la voir, puis il a dit X, Y, Z, là.
Exactement, tu as tout compris. Et ce que tu viens de dire, là, sans te révéler ce qui s'est fait à l'enquête préliminaire, je peux te dire que ça se pourrait, disons, que ça ressemble à ça, là. Quelque chose dans ce genre-là.
Qu'on ait des gens qui ont corroboré la version de Duguay, là.
Et voilà.
Parce que c'est lui qui les appelle à bord des témoins. Fait qu'il va essayer de trouver du monde qui va crédibiliser son témoignage, dans le fond.
Oui, mais en fait, c'est pas lui qui les appelle à la base, c'est vraiment la couronne. Lui, il est un témoin de la couronne, mais c'est la couronne qui fait tout ça. Sauf que s'il a dit à 3, 4, 5 personnes, il y a 25 ans, qu'il venait d'être agressé par un gars avec qui il travaillait au service du courrier de Radio-Canada, bien, ces gens-là, s'ils s'en rappellent, peuvent venir raconter à la cour que, oui, deux semaines après les événements, Donald Duguay m'a dit ça. Donc ça vient donner une crédibilité, disons, à la version et aux faits. Parce que sans ça, quelqu'un pourrait dire, bon, on sait bien, là, 27 ans plus tard, est-ce que c'est par vengeance personnelle contre Éric Salvaille que cet homme-là peut avoir tout inventé? Mais s'il a tout dit il y a 27 ans, alors qu'Éric Salvaille n'était absolument pas connu, bien là, ça donne une certaine crédibilité à ses propos. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Là. En justice, dans un procès criminel, la crédibilité des témoins, c'est ça le plus
c'est
important,
fondamental, évidemment. Bien, merci beaucoup, Philippe. On va sûrement se reparler parce que le procès se poursuit jusqu'à jeudi, à tout le moins.
Mais oui, absolument. Minimum jeudi, probablement.
Au revoir. C'était donc Philippe Bonneville, qui est notre collègue journaliste pour le réseau Cogeco. Là, je lis vos commentaires, les gens qui m'écrivaient puis qui me textaient au 25-226. Puis, c'est sûr et certain que j'aurais pas ce genre de commentaire-là si c'était une fille. Puis, je vous comprends, parce que c'est sûr que comme gars, on lit ça, puis on se dit, voyons donc, il était dans une toilette, l'autre, il avait culotte à terre, il se tenait d'une main, il avait juste une main, l'autre, il n'a pas l'air de se sauver, franchement. Pourquoi il l'a pas poussé? Pourquoi il l'a pas frappé? Pourquoi? On a toujours l'impression que nous autres, les gars, on est capable de se défendre. Puis, on comprend pas qu'un gars n'a pas été capable de se défendre. Et c'est sûr que ce bout-là, il y a beaucoup d'interrogations. L'autre affaire aussi que je remarque, le fait que ça a duré 3-4 minutes puis qu'il n'y a pas eu de viol, là, est-ce que ça change de quoi? Parce que l'intention était quand même la même. Là, il y avait clairement une intention là-dedans. Est-ce que c'est plus de l'exhibitionnisme? Est-ce que c'est plus du harcèlement? Écoutez, Il y a beaucoup, beaucoup de questions à la lumière du témoignage de la présumée victime qui sont soulevées. Je dirais même peut-être plus que des réponses. Donc, Donald Duguay, son témoignage va se poursuivre au cours des prochains jours et des prochaines heures. En attendant, je veux savoir, le textez-moi donc, continuez à me texter au 25226. Est-ce que la tempête s'envenime? Est-ce que ça se détériore dans votre coin de Québec? Parce que moi, je regarde par la fenêtre puis je vois de moins en moins loin. Fait que je sais pas si la visibilité commence à être réduite un peu partout aux quatre coins de la ville. Benjamin, tu veux m'en jaser?
Ben, sur la carte de Transport Québec, ça roule bien un peu partout. Il semble y avoir un ralentissement qui n'est pas majeur sur le pont Pierre-Laporte. Oh. Je crois que c'est en direction sud, si je comprends bien la carte. Par contre, côté chaussée, c'est enneigé pas mal partout. Là, sur la 40, sur la 20, sur Henri IV, sur la Capitale et sur Laurentienne, c'est enneigé. Il semble y avoir boulevard Champlain qui est correct, là, mais pour le reste, ça semble être chaussée enneigée un peu partout dans la grande région de Québec.
Si vous voyez de quoi, s'il se passe de quoi, continuez à me texter au 25226. Informez-nous de ce qui se passe dans votre coin à Québec. Nous, on prend une courte pause. Restez là, on revient dans quelques minutes.